Courrier cadre, l'entretien.
Loïc Soubeyran, le fondateur de Swile, cette licorne qui a connu une levée de fonds de 200 millions d'euros en 2021, prône un management à la fois exemplaire et bienveillant. Il aborde 2022 avec de nouvelles ambitions et toujours le même leitmotiv, ne rien laisser au hasard. C'est ce qu'il nous raconte au micro de Marie Rock, un entretien réalisé pour Courrier cadre.
On va commencer par un petit bilan de l'année. Quelle année pour vous ?
Quelle belle année !
Quelle belle année ! Voilà, un petit bilan et puis aussi, quelle vision et comment vous avez traversé la crise sanitaire et les contraintes que ça a engendré ?
Ouais, une belle année puisque... ça a été finalement... On a continué sur notre lancée, si vous voulez, sur le marché des titres restaurants, où on conclut l'année avec 13% de part de marché. On a atteint les objectifs qui étaient les nôtres en début d'année. Mm-hmm. On a continué notre diversification à la fois produit et géographique, puisque c'était une année ponctuée par une année lancée par une acquisition au Brésil avec la start-up Vie Beneficios, qu'on a entre-temps du coup intégré et renommé, et la traction est excellente.
C'est
et on sait
bien.
Que le Brésil, c'est le marché numéro 1 mondial, et on sait que on va avoir des relais de croissance exceptionnels en Amérique latine sur notre marché. Pour continuer cette belle aventure, il faut avoir les moyens de nos ambitions. Et cette année, elle a été aussi sous le signe de la levée de fonds de 200 millions qu'on a fait, notamment qu'on a faite avec SoftBank, et qui a fait de nous une licorne. Et puis c'est une belle étape, mais évidemment, ce n'est que le début, parce qu'on vise, on vise plus haut.
Justement, qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être devenu une licorne ?
En fait, une licorne, nous, on s'en sert vraiment comme... c'est quand même... en interne, c'est quand même une étape clé, symbolique, qui témoigne d'un boulot bien fait. On a fait un super début d'aventure. Et ça nous permet de nous reprojeter sur les étapes d'après, avec encore plus d'ambition. Ça, c'est la première, c'est l'interne.
Oui.
Hyper important. Et puis en externe, c'est également hyper important parce que justement, on a une vraie volonté d'accélérer notre expansion géographique. Et évidemment, et que cette expansion géographique, peut se faire notamment par voie d'acquisition, et pas forcément que de manière organique. Et évidemment, avoir ce statut-là, qui plus est avec un acteur aussi connu que SoftBank, ne fait que envoyer des super signaux aux sociétés que nous souhaiterions racheter.
Vous disiez juste avant que vous vouliez aller encore plus haut. J'ai lu pas mal de personnes qui disaient de vous que vous étiez très 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 exigeant, détendu mais exigeant. Est-ce que c'est un moteur pour vous cette exigence ? Est-ce que ça l'a toujours été ?
Est-ce que c'est un moteur ? Non, ce n'est pas mon moteur. C'est peut-être ce qui je suis, mais en tout cas, ce n'est pas un moteur. Je ne me lève pas le matin en me disant que je vais être exigeant. en revanche, mon moteur, c'est plutôt l'impact. On est là pour faire un projet commun, collectif, qui a de l'impact. On est là pour essayer d'avoir un impact sociétal, in fine. Donc, c'est-à-dire vraiment essayer de en étant hyper connecté grâce à notre produit, à des... millions de gens, et je l'espère même des centaines de millions de gens un jour, essayer quand même de rendre de simplifier leur vie au travail. Et donc de fait, pour arriver à cette ambition là évidemment, il faut être exigeant, mais tout en étant hyper bienveillant, c'est pas l'exigence pour l'exigence, c'est plus le témoignage d'une ambition qu'autre chose, en fait.
Okay. Vous êtes tombé dans l'autre... Dans
rien laisser au hasard. Voilà, faut rien laisser au hasard.
Vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat très tôt. D'où vous vient cette fibre ? Qu'est-ce qui a porté un peu cette envie de créer tout de suite ?
Alors, d'où vient ce FIP, ça, c'est compliqué à répondre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours été hyper curieux. Ça, c'est certain. Et j'ai toujours été animé par cette volonté de créer des choses. Voilà. Donc, je suis curieux et créatif. Donc, de fait, et je suis animé par un sentiment d'impact. Donc, dès l'instant où on mélange un peu tout ça, là, la curiosité, la créativité et la volonté d'avoir de l'impact, ben, ça ressemble quand même dangereusement aux caractéristiques d'un entrepreneur. Donc, voilà. Donc, et j'ai eu la chance de pouvoir juste être qui je suis, quoi. Tout simplement.
Vous avez eu une activité salariée ou jamais ?
Jamais, parce que justement, j'ai eu la chance de pouvoir chérir cette liberté-là et de me lancer dès la sortie de mes études dans des projets entrepreneuriaux, sans que ça me soit reproché, notamment par mon cercle personnel. Il m'a toujours fait confiance. Et après, par contre, effectivement, je pense que j'ai mis toutes les chances de mon côté, puisque dans le cadre de mes études...
C'était déjà
tout le temps. Ouais. Ben ouais, tout le temps que je ne passais pas à la fac, je le passais à créer, à faire des projets. Je perdais pas mon temps, entre guillemets, quoi. J'avais l'impression de faire.
C'était déjà ancré, quoi.
Oui, oui.
Aujourd'hui, quel type de manager êtes-vous ? Comment vous vous qualifierez comme en tant que manager ?
Je pense très bienveillant, ouais, exigeant et bienveillant. Parce qu'en fait, moi-même, j'ai été marqué par... Je pense être assez empathique, très même. Et donc, de fait, j'ai, dans un contexte plus perso, quand j'étais en prépa, j'ai foiré ma prépa, ma TUP.
Ça arrive au meilleur.
Et ouais, mais c'était une super leçon de vie, parce que du coup, j'ai vu... que finalement, moi, j'étais en fond de classe. Et le milieu de classe, en fait, dans cet environnement hyper compétitif, était là pour écraser le fond de classe, pour montrer qu'ils étaient meilleurs, quoi. Et en revanche, il y avait trois ou quatre personnes qui étaient restées à 17, 18, 19 de moyenne, alors qu'on était tous tombés en dessous de la moyenne, hein, évidemment, c'est le principe. Hein. Et que c'est ces personnes-là qui non seulement excellaient à titre personnel, mais en plus, elles aidaient tout le monde. Elles étaient hyper disponibles. Et c'est comme ça que j'ai compris l'équation de... En fait, l'excellence, c'est être performant et bienveillant. Parce que ça tire tout le monde vers le haut. Et que ce qu'en revanche, il ne faut pas tolérer, c'est la performance sans la bienveillance. C'est-à-dire, là, ce milieu de classe-là, là, ceux-là, au contraire, ils étouffent ceux qui sont en dessous. Et en fait, dans le monde de la vie, dans le monde professionnel, c'est exactement pareil. C'est dès l'instant où vous avez une individualité dans une équipe qui est là pour performer individuellement au détriment des copains,
ça et bien en fait,
c'est ben non, parce que c'est toute l'équipe qui sous-performe en fait, juste à cause d'une personne. Et donc, il faut être hyper vigilant au comportement et à l'état d'esprit. Et ça c'est un truc que j'ai eu ancré très très vite en moi. Je fais très souvent beaucoup de métaphores sportives, etc. Parce que c'est vraiment cette dynamique d'équipe là qui m'importe. C'est le en fait, ce qu'on vit, c'est la victoire finale. On est quand même animé par gagner. Donc je pense que je suis un compétiteur aussi, voilà. Vous me demandiez les caractéristiques. Je crois que je suis un compétiteur. Donc on ne veut rien laisser au hasard, mais on est convaincu que ça ne peut être que le fruit d'un super travail collectif et que c'est pas une posture, c'est vraiment profond cette histoire-là, et que on doit accepter que chacun joue son rôle bien précis, parce qu'en fait ce qu'on vit, c'est être champion du monde tous ensemble et pas juste moi avoir une distinction individuelle, quoi. Et voilà.
Donc c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a suivi dans votre vie professionnelle.
Complètement. C'est marrant parce que c'est avec l'expérience quand même que j'arrive à remettre des mots dessus, parce qu'évidemment cette équation-là, lors de la prépa, je l'ai subie, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et avec un peu d'expérience, du coup, je mets je pense être très 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 clairvoyant sur ce qui se passait. Et quand j'ai monté Tiz en tant que primo, quand j'ai cofondé, parce que j'étais pas seul, Tiz en tant que primo entrepreneur, évidemment, nous n'avions pas d'expérience sur, managériale, quoi, tout simplement. Puisqu'on sortait d'études, on n'avait jamais connu le contexte professionnel, et donc finalement, on connaissait assez peu ces environnements d'équipe, justement, avec tout ce qui a géré en conséquence. Et je me souviens très bien qu'on était très très axé sur le recrutement basé sur l'expertise des gens au démarrage et pas forcément sur qui ils étaient et quelles valeurs ils défendaient finalement. Et ça nous a coûté beaucoup ensuite en interne parce que dès l'instant où il a fallu grandir fort et vite, ben c'est là où vous vous rendez compte que en fait, on est tous différents et il y en a qui ira à ma gauche, il y en a d'autres qui ira à ma droite, d'autres qui lèvent la pagaie parce qu'ils sont désengagés complètement. Mmh. Et vous comprenez plus pourquoi le bateau, vous n'arrivez plus à le diriger comme vous voulez. Quoi. Et ça, c'était assez flagrant. Je l'ai vécu vraiment chez Tide. Et en fait, ça, ce n'était que le fruit du fait qu'on n'ait pas mis des fondations hyper robustes sur la culture d'entreprise dès le premier jour. Et quand je parle de fondation sur la culture, en fait, je parle de fondation sur qui nous sommes, en fait. Quelles valeurs on défend. Voilà, tout simplement. Mmh. Et ça, c'était ma deuxième grande leçon entrepreneuriale, on va dire. C'est vraiment faire hyper attention au sujet de la culture d'entreprise.
Justement, vous avez...
Et ne pas être tolérant. Ouais. Et c'est marrant parce que je suis hyper tolérant dans la vie de tous les jours. Mais pas sur les sujets des... Pas sur le comportement. En fait.
Mm-hmm. Vous avez
parce
beaucoup...
Que quand...
Pardon, ouais. Allez-y.
Non, mais on sent trop le mal que ça fait, en fait. Mm-hmm. Et les boîtes qui grandissent mal, c'est des boîtes qui passent en fait leur vie à gérer des problèmes qui, à la base, n'ont pas lieu d'être.
Qui ne devraient pas
parce
exister.
Que, qui devraient, à la base, même pas exister, en fait. Donc, on est en train de perdre une énergie folle dans la journée à essayer de... Mais à la base, ça n'a pas lieu d'être. On est en train de passer l'énergie pour rien, quoi. Et ça, pourquoi ? Mais parce qu'à un moment donné, on a arrêté de défendre des choses qui nous sont chères, en fait. Mmh. Ou on a oublié de les mettre en place.
À la base. Justement, vous avez beaucoup, beaucoup grossi très vite, recruté beaucoup. Comment vous y êtes pris avec vos équipes pour trouver les bonnes personnes? Parce que c'est des gros volumes.
En fait, pareil, on a fait des erreurs. J'ai beaucoup appris chez Tide. Je continue à beaucoup apprendre chez Swile. Ça, c'est, c'est la constante. Et typiquement, j'en garde... Là, si on me demande... Alors que bon, je suis dans une perspective hyper long-termiste avec Swile, mais je sais très bien... Que dans quelques années, je me vois déjà raconter que une grande leçon que j'ai appris de Swile, c'est que il faut miser très fort, très vite sur le département RH.
Oui.
C'est-à-dire que très souvent, quand on monte un projet entrepreneurial, les RH, c'est un peu souvent le dernier département qu'on va mettre. Et je pense du plus sincèrement, du plus profond de mon cœur, je crois que si je remonte un projet, dès le premier jour, j'ai un chief people. J'en suis convaincu. Parce qu'en fait, on ne peut pas à la fois dire qu'il faut tout miser sur la culture, être une people first company, et pas se donner les moyens en conséquence. Et parce que je peux vous garantir qu'être une people first company, c'est tout sauf juste... une volonté de l'être. Il y a du travail. Ça ne s'improvise pas, cette histoire. Parce que dès l'instant où vraiment vous êtes engagé et concerné par, justement, faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien, et que, évidemment, vu que vous considérez très bien la chose, vous êtes déjà à des années-lumière de penser que c'est un baby-foot ou autre chose qui va leur faire du bien, et bien, de fait, tout ça, ça structure. Les politiques de rémunération. La politique de rémunération, c'est de la culture d'entreprise. C'est quelle équité vous mettez, quelle transparence vous mettez, les politiques de mobilité, les politiques de rituel, comment vous créez la cohésion, les politiques de recrutement, mais pas que recrutement, de comment vous... typiquement, si vous recrutez que des juniors, ça ne va pas marcher, cette histoire. il faut trouver avoir un bon équilibre. Et donc ça, il faut une vraie maturité pour comprendre les enjeux de pourquoi est-ce qu'il faut un vrai équilibre, etc. Et que parfois, il vaut mieux recruter deux personnes plutôt que trois aussi. Bref, tout ça, en fait, ça demande de l'attention. Et en fait, c'est pas cher parce que justement, évidemment, c'est un investissement, mais ce n'est pas cher parce que si vous le faites bien d'entrée de jeu, derrière, ça vous coûtera beaucoup moins cher que la somme des problèmes que vous aurez à gérer si ce n'est pas fait rapidement, en fait. De toute façon. Donc, c'est un vrai investissement. Et voilà. Et ça, si je refais un projet un jour ou si si je dois conseiller un projet qui se lance, je sais que je dirais, mais de suite, investis en people. N'attends pas que ça soit trop tard.
Justement, je rebondis aussi sur l'objet des produits que vous proposez. C'est aussi pour simplifier la vie, la gestion RH. En quoi c'est devenu indispensable aujourd'hui?
Alors déjà, ce qu'on pourrait peut-être noter, c'est que à la base, c'était pas le projet de base.
De base.
Et le projet de base, c'était de faire d'être vraiment dans la food tech, ce qu'on appelle, donc avec une plateforme de commande entre collègues pour la pause déjeuner. Donc mine de rien, il y avait déjà cette notion de mettre de la technologie au service des collaborateurs pour leur pause déjeuner, donc pour créer de la cohésion, puisque du coup, plus vous êtes nombreux à commander, plus vous avez accès à de la réduction. Et donc mécaniquement, ça crée des effets de groupe. Et vous déjeunez avec des gens qui habituellement vous déjeuniez pas forcément. Et en fait, vu qu'en parallèle, on a mis énormément d'attention sur notre culture d'entreprise et qu'on avait une forme de maturité sur comment gérer le quotidien en entreprise, quand il a fallu passer le cap et sortir du simple spec de la pause déjeuner, finalement, hein, du titre restaurant et de la pause déjeuner, on s'est dit, mais en fait, on va garder qui nous sommes et on va mettre la technologie au service non pas que de la pause déjeuner, mais de l'expérience employée tout court, du matin au soir. Quoi. Parce qu'en fait, les sociétés en ont besoin, fondamentalement. Et c'est comme ça qu'on est passé de luncher, donc très connoté lunch, déjeuner, à smile, qui veut dire smile at work. C'est le M de smile qu'on a retourné en W de work. Et qui, du coup, a vraiment cet enjeu de dire les boîtes doivent fondamentalement être people first si elles veulent performer à long terme. Nous allons aider les sociétés à le devenir grâce à la technologie. En partie grâce à la technologie. On va accompagner ces sociétés-là. Et on va faire en sorte que les collaborateurs vivent beaucoup mieux leur quotidien au travail, notamment grâce à la technologie. Okay. Et ça, pour ça, on a nos deux produits phares, en fait, finalement, hein, qui est la Swile Card, qui, en fait, au démarrage, était une carte titre restaurant qui a été transformée en carte avantage salarié, et que là, nous sommes en train de transformer, cette fois-ci, en carte employé tout court, c'est-à-dire que n'importe quel euro que vous avez à dépenser dans votre contexte professionnel, que ça soit vos avantages salariés, les titres resto cadeaux, mobilité, vacances, etc., que ça soit vos frais professionnels, ou que ce soit votre argent personnel parce que vous avez des dépenses entre collègues à faire, et bien ça, c'est géré avec un seul et unique outil. Donc on simplifie tout. Et je n'ai pas parlé du salaire, mais il y a aussi la fonctionnalité d'avance sur salaire.
Oui, les avances, d'accord.
Donc vraiment, il y a ce sujet-là du paiement en entreprise et du salaire qui est complètement simplifié. Et plutôt que d'avoir un peu de papier, quatre cartes, et bien galérer, tout ça, c'est simplifié. Mais surtout, on a la Swile App. La Swile App, en fait, c'est le pendant de la Swile Card. C'est-à-dire qu'à l'instar de la Swile Card, vous aviez 5, 6, 7 cartes qu'on a tout regroupé en une. Ben là, pareil, côté app, au lieu d'avoir 15 solutions dans votre quotidien, ben vous n'en avez plus qu'une. Une seule app où tout est réuni, où vous allez à la fois pouvoir faire votre admin, c'est-à-dire faire vos demandes de congés, voir votre bulletin de paye, contrat de travail, etc., vos frais, vos notes de frais, mais aussi gérer vos relations avec vos collègues, avec cet enjeu à la fois de faire des feedbacks, à la fois de célébrer, à la fois d'échanger autour de projets, etc. etc.
D'accord.
Et donc ça, c'est vraiment ça, et on le voit de manière unifiée. C'est hyper important que tout ça soit unifié, parce que aujourd'hui, l'expérience employée, elle est beaucoup trop fragmentée d'un point de vue technologique. Et puis surtout avec un ADN très, très user, très B2C finalement. Nous, on est dans un monde B2B, mais les employés, ils en ont marre d'avoir dans leur vie personnelle les outils dernier cri, et dès qu'ils rentrent dans la vie pro, ils ont l'impression de faire un bond en arrière de 15 ans. Quoi. Ça, c'est pas possible.
Okay.
Voilà.
Voilà
qui nous sommes.
Comment vous faites naître l'innovation? Comment vous travaillez sur l'innovation et la créativité dans les équipes?
Ben déjà, on a quand même eu un vrai framework de pensée. C'est-à-dire que dès l'instant où vous dites, bon, ok, on s'attaque au sujet de l'épanouissement des collaborateurs, et que pour être épanoui, il y a des différents leviers d'épanouissement, que ce soit de tous les sujets autour de la sécurité, qu'elle soit psychologique ou financière ou autre, des sujets autour de comment bien grandir, des sujets autour de comment renforcer le sentiment d'appartenance, des sujets autour de l'estime et des sujets autour du sens. De fait, ça permet de commencer à se demander quel type de fonctionnalité on va pouvoir faire pour quel levier, en fait.
D'accord.
En sachant qu'évidemment, tout à chacun, on est sensible sur différents leviers également. Mais tout l'enjeu est que le collaborateur retrouve ce dont il a besoin pour se sentir bien. Voilà. Il y en a qui vont être très axés sur le sentiment d'appartenance. Appartenir à un groupe, c'est très important pour certaines personnes, un peu moins pour d'autres. Et bien là, ils ont les fonctionnalités qui vont bien pour célébrer, célébrer, communiquer, etc. Par exemple.
D'accord.
Créer des challenges, etc. Mm-hmm. D'autres vont être beaucoup plus sensibles au sujet de comment bien grandir. Et donc là, ils vont être plus sensibles à recevoir des feedbacks de la part de leurs collègues, quels qu'ils soient, et qu'on leur montre et aussi consommer du contenu pour continuer à grandir.
D'accord.
Etc. Voilà, ça c'est du très concret.
Ok. Donc, on l'a vu, vous avez vécu une année un peu de folie. Comment vous avez géré ça, la pression dans les périodes décisives, les négociations? Comment vous avez gardé la tête froide,
alors,
je dirais?
Très sincèrement, cette année, elle a été... en fait, c'est pas une année de folie, ça fait 12 ans de folie, en fait, hein, finalement. Depuis le lancement de site, parce que j'ai, toutes les années, elles sont ressemblent, hein, elles sont hyper intenses toutes, et c'est pas parce qu'on... Enfin, il faut savoir que c'est aussi intense de lever 200 millions que 200 000 euros.
Oui.
C'est pas, ouais, franchement. Hein.
C'est intéressant, ça.
Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intense, mais voilà, c'est pas proportionnel au nombre de zéros, hein, à l'intensité.
D'accord. Donc, voilà. Vous arrivez à gérer...
Bah oui, parce qu'en fait, c'est une espèce de marathon, marathon sans fin, cette histoire-là. Donc,
Victime consentante, de toute façon.
Je suis pas victime, moi. Je suis hyper bien. Je suis hyper à l'aise avec mon quotidien. Je suis très bien. En termes de, je fais beaucoup d'anglicisme, mais justement dans l'épanouissement, il y a une question de job fit.
Mm-hmm.
Donc être bien avec son, en fait, être aligné avec son métier. Si vous n'êtes pas aligné avec votre métier, quel qu'il soit. De toute façon, ça ira pas loin, cette histoire. Mmh. Je crois que moi, je suis hyper aligné avec mon métier. Donc, à partir de là, je le vis hyper bien. Et peu importe l'intensité, en fait. Je fais ce que j'aime. Voilà.
Vous avez des collaborateurs à Paris, à Montpellier, et beaucoup en télétravail. Comment ça se passe? Comment vous organisez tout ça? C'est aussi ça une culture, d'entreprise
aussi,
hein. À Sao Paulo aussi. Des Français? Oui.
Hein?
Il y a des Français à Sao Paulo aussi?
Il y en a quelques-uns.
Ouais, ouais.
Pas beaucoup, mais il y a quelques-uns.
Comment vous organisez tout ça?
En fait, on a toujours été, à la fois chez Tide et chez Soil, dès le premier jour, on a toujours été un peu Paris-Montpellier, de base. Avec Soil, très vite, on a eu des gens en full télétravail aussi. Et donc, en fait, la méthode qu'on utilise, c'est de demander, déjà, on se réunit une à deux fois par an tous ensemble.
D'accord.
Ensuite de ça, on demande aux équipes cercle un peu plus fermé, celle qui ne se voit pas, en tout cas, de se réunir un minimum une fois par trimestre.
D'accord.
Et puis après, on utilise surtout un seul et unique outil de communication, où tout est centralisé. Mmh. Et du coup, ça aide à créer ce sentiment d'appartenance. Et puis surtout, tout passe, c'est-à-dire qu'on a une politique de transparence absolue sur l'information, les différents projets, etc.
D'accord. Donc ça fonctionne très bien.
Ça fonctionne.
Et puis c'était bien avant crise sanitaire. Enfin voilà, il y avait pas de.
Exactement.
D'accord.
Oui, voilà. On n'a pas eu à s'adapter. Nous, on était déjà. On n'a rien changé avec la crise sanitaire.
Oui, ça vous a presque pas impacté, quoi.
Si, ça nous a impacté, mais positivement. En termes de business, surtout.
Oui. Est-ce que vous prenez des congés à Noël ?
Je vais prendre une semaine.
Une semaine. Est-ce que c'est important pour vous de couper ? Comment vous gérez ces congés ? Est-ce que vous arrivez à couper complètement ? Est-ce qu'il y a cet aspect exemplarité ?
Ça fait partie de mes axes d'amélioration.
Couper complètement pour donner l'exemple aussi ?
Je suis beaucoup plus attentif à ce que les gens se sentent bien par rapport à qui ils sont. Oui. Donc, si tu as besoin de couper complet, machin, je le respecte, en fait. Mm-hmm. Mais si pour être bien, il ne faut pas que tu coupes et que couper complètement, en fait, ça t'augmente ton stress.
Oui, c'est ça.
Je le respecte aussi, en fait.
D'accord.
Moi, la seule chose que je te demande, c'est d'être aligné avec toi-même. Mm-hmm. Et le plus tu l'es, le plus tu es bien, le plus je suis heureux. Voilà. Non, je suis hyper respectueux des rythmes des uns et des autres. Certains, pour différentes raisons, ont besoin de plus travailler que d'autres.
Ils ont besoin de se rassurer aussi.
Et peu importe. Moi, dès l'instant où on ne vire pas dans la toxicité.
D'accord.
Voilà, un collaborateur qui me dit, moi, j'ai mon rythme. Voilà, c'est important pour moi de ne pas me... Si je coupe à 18h, je coupe. J'en ai besoin parce que ça me permet d'arriver encore mieux le lendemain. OK. Et s'il y en a un qui se dit, non, mais moi, t'inquiète pas, tu peux m'envoyer un message le samedi, au contraire, je suis dans une période de ma vie où, limite, ça me fait du bien, OK, je ne suis pas là pour juger, en fait.
D'accord. Donc chacun, vraiment,
oui. Il faut respecter l'équilibre des uns des autres. Mmh. Et voilà. Et je trouve que, imposer à quelqu'un de faire quelque chose. En fait, il ne faut pas imposer, voilà, c'est ça. Mm-hmm. Imposer à quelqu'un de couper alors qu'il n'a pas envie de couper,
oui,
je ne vois pas à quoi ça sert. Quoi. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Quels sont pour vous, alors, je vous ai posé la question pour les managers, mais la notion de leader. Est-ce que vous estimez être un leader et quelles sont pour vous les qualités d'un bon leader et est-ce que c'est indispensable pour mener une entreprise ?
Est-ce que c'est indispensable ? La réponse est oui. Mm-hmm. Ça, c'est évident. Il y a besoin d'avoir un capitaine, toujours. Voilà. Après, un capitaine, ça ne veut pas dire qu'un capitaine impose. Mm-hmm. Un capitaine, il embarque. Voilà. Donc, oui. Donc, j'espère être un leader. J'espère être un leader inspirant.
Oui.
Parce qu'en fait, on a besoin d'un cap. Mm-hmm. Et on a besoin de... À l'ère un peu où on a beaucoup parlé d'holocratie, en fait, il y a une totale différence entre écouter, se sentir écouté,
oui.
En tant que membre d'une équipe, et que tout le monde soit exactement au même niveau de décision, etc. On a besoin d'un capitaine, on a besoin de quelqu'un qui donne une ligne claire, directrice. Et c'est comme ça qu'on arrivera au bout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le leadership, il est crucial, capital. Et voilà. Et donc, du coup, les qualités d'un leader, je crois que c'est surtout être exemplaire. C'est-à-dire qu'il y a toute une dynamique d'équipe qui peut être complètement pétée si ne serait-ce qu'une personne, c'est-à-dire le leader, n'est pas exemplaire. Mm-hmm. Parce que derrière, en fait, ça ruisselle. Alors, en tant que leader exemplaire, ça ne veut pas dire que tout va bien en dessous, mais justement, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous n'êtes pas, c'est certain que ça ne marchera pas.
D'accord.
Donc, il y a quand même ce devoir d'exemplarité totale, ce qui ne veut pas dire qu'on a des erreurs, encore une fois, mais les gens sentent bien Quand vous êtes exemplaire et que vous avez juste fait une erreur et que vous allez réparer,
il n'y a pas de souci.
Quand en fait, vous n'êtes pas exemplaire de base. Voilà. Ça, c'est, voilà. Donc, c'est être inspirant, exemplaire et clair. Il faut avoir une vraie clarté.
Clair dans, dans sa vision, dans le cap qu'on donne. Quoi.
Le cap. Si vous donnez un bon cap, qu'au quotidien, vous êtes exemplaire, et que du coup, ça, le côté inspirationnel, il vient aussi dans la vision, mais il ne faut pas juste être dans la théorie. C'est, voilà. Le cap, il faut le montrer à la fois de manière inspirante et claire, en fait. C'est le mix des deux qui fait une combinaison gagnante. Quoi.
D'accord.
Et le tout de manière, encore une fois, collective, donc empathique, en fait. L'empathie, c'est une qualité indispensable. Voilà. Donc là, on a les quatre points, là, je crois.
J'ai un dernier point. Je vous ai lu dans une interview. Vous disiez que votre meilleur apprentissage en tant qu'entrepreneur, c'était de savoir trancher vite, de savoir faire des choix rapides, parce que le pire pour vous, c'est de ne pas faire de choix. Et c'était, je trouvais ça intéressant. Je voulais juste vous entendre là-dessus.
En fait, c'est une grande... Je pense qu'à la base, je suis quelqu'un de réfléchi. Je suis assez stratège, j'ai besoin d'avoir trois coups d'avance, en fait. J'essaye de penser tout à trois coups d'avance. Et j'ai appris, grâce à Tiz, et grâce notamment à la fusion avec la société de Pierre Chappaz, qui s'appelle eBuzzing, que ça avait beaucoup plus de valeur de décider vite, quitte à se tromper, que de réfléchir en permanence et finalement pas avancer. Quoi. Parce qu'au pire, même si vous vous plantez, il y aura les autres fois où vous aurez raison et vous aurez donc avancé. Quoi. Alors que dans l'autre cas, vous n'aurez juste rien fait. Quoi. Voilà. Donc il faut être en permanence en mouvement. Il y a cette question de célérité permanente qui est hyper vertueuse. Et du coup, j'essaie d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire... En fait, c'est réfléchir en mouvement, quoi. Ouais. Il faut, voilà. En fait, il faut surtout pas que la réflexion de cette volonté d'avoir trois coups d'avance vous bloque et vous fige. Il faut continuer à avancer et en se disant que plus j'avance, plus je vais comprendre des choses. Je vais avoir plus de variables, en fait, plus de paramètres, et donc je serai plus à même de prendre des meilleures décisions. Le jour où vous êtes figé, vous êtes mort. En fait.
Mort.
Et ça, c'est. Et c'est pour ça, je l'ai apprise de Tiz. Je l'ai réappliquée sur Swile et voilà. Et je crois que ça se ressent chez Swile, cette célérité-là.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Et pour vous et pour Swile ? Pour vous en tant que manager et...
De continuer à faire de l'hypercroissance heureuse. Voilà. Moi, le jour où on est dans l'hypercroissance, mais que on vit plus bien ensemble, ça m'ira pas, quoi. Donc, c'est continuer à être heureux, en fait. Voilà, tout simplement. Okay. Parce qu'on l'est, on est bien. On vit bien cette aventure ensemble. Ça veut pas dire que c'est pas fatigant. Hein.
Oui, c'est pas. J'imagine.
Et on a le droit d'être fatigué et heureux, quoi.
Oui, oui, c'est pas.
La bonne fatigue et la mauvaise fatigue.
C'est ça, c'est voilà. Pas incompatible, ok.
Exactement.
Courrier cadre, l'entretien.